Radio Okapi.
Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Nouvelle grille tarifaire de prix dans le transport en commun pour la ville de Kinshasa, publiée par l'hôtel de ville, dont l'arrêté du gouverneur interdit notamment la pratique de demi-terrain ou sectionnement des trajets, aussi celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Mais cette mesure est loin d'être respectée par les conducteurs de transport en commun. Reportage dans ce journal. Encore des combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 à Ngungu et à Masisi. Les rebelles sont venus avec l'intention de déloger les FARDC qui avaient repris le contrôle de cette entité hier lors d'une contre-offensive. Pendant ces temps, la situation reste volatile autour de la cité de Sake. Les acteurs médiatiques et politiques appelés à adopter des discours responsables et unificateurs via le média. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, promet des sanctions sévères à l'encontre de réfractaires. Il est l'invité de ce journal. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par Kinshasa. L'hôtel de ville a publié la nouvelle grille tarifaire des transports en commun pour Kinshasa. Par exemple, le trajet en minibus et taxibus de la gare centrale à Lemba Terminus coûte 2000 francs, 2500 pour atteindre le rond-point Ngaba et 3000 francs de la gare centrale à Lupen. Dans son arrêté, le gouverneur réitère l'interdiction de la pratique du demi-terrain ou du sectionnement des trajets, ainsi que celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Quelle est la situation sur le terrain? Reportage Babel Pongo et Nossa Yama.
Sur terrain, rien n'a encore changé. Les conducteurs ont gardé leurs prises habituelles, ainsi que les demi-terrains et dans les taxibus, surtout ceux faisant le long trajet. Le paiement de la course continue de se faire avant de prendre place à bord. Ces passagers rencontrés sur le boulevard du 30 juin témoignent.
Je vais au rond-point Ngaba, il y a 4000. Avant de monter, je vais de payer chez le receveur.
Et toi, Congo, à Victor, je vais payer 2000 francs. De Victor jusqu'à Huileries, je vais payer 1500. Puis de Huileries, Régis des Eaux, je vais payer 1000 francs. Et puis de la Régie des Eaux jusqu'ici, je vais payer 6000 francs.
Il plaide pour un suivi afin que la nouvelle tarification soit respectée.
Le responsable de la SECO doit vraiment interpeller leurs affiliés. Il faut qu'ils suivent aussi la même gouverneur de la ville.
Concernant la nouvelle grille, justement, les chauffeurs relèvent ces contraintes auxquelles ils font face au quotidien.
Ce qui nous dérange, c'est le mauvais état des routes, ainsi que les temps et les carburants que nous perdons dans les bouchons. Ajoutez à cela les versements journaliers que nous devons atteindre.
De son côté, la SECO, Association des chauffeurs du Congo, membre de la commission tarifaire, explique les dispositions prise à son niveau pour l'application de la nouvelle grille. Son président, bienvenue Kakoulé.
Il y a des causeries morales que nous faisons avec les chauffeurs. Nous devons faire voir aussi au patron des véhicules tout ce qu'il y a comme contrainte.
Les contrevenants à ces nouvelles mesures seront soumis au paiement des amendes allant de 50 à 200 dollars américains.
Quelle est la situation de la fourniture d'eau dans certains quartiers de cette commune de l'ouest de Kinshasa, 11 mois après la mise en service du premier module de l'usine Régie des eaux de Binza en zone à Ngalima? Les avis des habitants des zones concernées sont variés. Si certains constatent une amélioration, d'autres continuent de vivre des difficultés pour s'approvisionner en eau potable en raison de travaux de pose de grandes conduites souterraines pour l'extension du réseau des distributions commencé en août 2024 est toujours en cours. Un reportage signé Billy Yvan Lutumba.
Cette usine a une capacité de production de 110 000 m3 par jour pour desservir plus de 1 500 000 consommateurs. Mamouchela réside à Mitendi, commune de Mongafula, une zone parmi les bénéficiaires de la production de ce premier module.
Pas régulièrement, il y a toujours des coupures, tout le temps, ça vient deux fois par semaine chez moi.
Une partie des Selemba, notamment Cité Verte, Badiadingi, Camping, Kitoki Mossi, figure parmi les zones à desservir. Madame Benga habite Badiadingi dans la commune de Selemba.
Par rapport aux années qui viennent de passer, c'était terrible. On
pouvez faire même des semaines sans eau. Surtout dans notre quartier de Bagadine, il y a quand même une petite amélioration.
M. Sungani de Lutendele à Mongafula reconnaît une petite amélioration, mais déplore un fait.
L'eau ne vient que vers 22h, ou soit 2h du matin, 1h. Mais ces derniers temps, on voit un peu, peut-être la journée, ça peut sortir un peu, 1h ou 30 minutes, et puis ça coupe.
De ce petit tour, il ressort que les bienheureux jusque-là sont ceux du quartier Mbiza Ozone, Météo, Mbiza Delvo, en croit ses témoignages.
L'eau coule chaque jour, ça coule vraiment, sauf s'il y a la pluie. Hein.
Depuis la construction de cette usine, il y a l'eau qui coule vraiment en permanence, à n'importe quelle heure.
Signalons qu'actuellement, des conduites souterraines sont en cours d'installation à l'entrée du quartier Montfleury. Ils iront dans toutes les communes retenues, signale une source proche de la régie des eaux.
Parlons à présent de combats au Nord Kivu entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Des tirs nourris ont été entendus à nouveau ce jeudi matin dans l'agglomération des Ngungu ainsi qu'au centre et aux alentours du chef-lieu du territoire de Masisi. Selon plusieurs sources, après avoir été délogés par l'armée congolaise, les rebelles du M23 sont revenus à la charge. Pendant ces temps, la situation reste volatile autour de la cité de Sake. Bernard Danyangi.
Alors que les militaires FARDC et les Wazalendo ont passé nuit en Ngungu et à Masisi Centre, nos sources indiquent que les rebelles M23 sont revenus à la charge ce jeudi matin. Ainsi donc, depuis 7h locale, le combat a repris autour de la cité de Ngungu. Aussi, une partie des rebelles M23 qui campaient toujours sur la colline Kaongole, près du centre de Masisi, auraient lancé l'attaque à partir de 9h locale. Certaines sources civiles parlent de la reprise de Masisi Centre par la rébellion après environ une heure de combat, alors qu'il n'y a pas assez de détails à présent sur l'issue des affrontements au niveau de Ngungu, où l'on signalait aussi la présence des rebelles M23 dans une partie périphérique jusqu'à mercredi soir. La situation sécuritaire se dégrade dans le territoire de Masisi depuis la reprise de ces combats. Le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, indique que l'armée répond par cette opération offensive aux violations incessantes du cessez-le-feu par le M23, appuyé par le Rwanda. Par ailleurs, Sake se réveille dans un calme précaire après un échange de tirs autour de 18h30 local hier, à l'issue duquel deux bombes larguées par le M23 sont tombées à Mubambiro sans faire de victimes. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Restons à Masisi. D'autres combats ont opposé ce jeudi matin l'armée congolaise appuyée par les volontaires pour la défense de la patrie appelée Wazalendo aux rebelles du M23 dans plusieurs localités. Ces affrontements ont eu lieu autour des collines de Ndumba, Kiluku, Bwanga et Lukala sur l'axe Bweremana dont le groupement Mufunyi Shanga ainsi que dans la localité de Mweso, groupement Bachali Mokoto, alors que dans Mufunyi Shanga, les combats se déroulent dans des villages faiblement peuplés à Mweso. Ils ont provoqué une panique paralysant les activités scolaires toute la matinée de ce jeudi. Certaines sources rapportent que deux civils, un enfant et un homme, ont été grièvement blessés par balles. Parlons toujours sécurité au Nord Kivu, mais dans la partie nord de la province, les affrontements ont repris ce jeudi matin dans le sud du territoire de Lubero entre le FARDC et le rebelle du M23. En croire des sources locales et sécuritaires, les rebelles ont attaqué des positions des FARDC dans les villages Kiulo et Timbo-Timbo à plus de 50 km de Lubero centre. Les mêmes sources rapportent qu'hier, une bombe larguée par le rebelle est tombée à Kavuya Vuya, un village de la localité de Kitumbiro, situé à 35 km de Lubero centre, causant un mort. Des sources militaires confirment ces attaques sans plus de détails. Pour dénoncer la guerre d'agression, les mouvements citoyens et la société civile du Sud Kivu avaient prévu un sit-in ce jeudi au poste frontalière avec le Rwanda. Cependant, cette manifestation a été interdite par les autorités. La police déployé tôt le matin à Ruzizi Premier a empêché le manifestant de franchir le périmètre de la douane. Environ une centaine de manifestants se sont alors repliés vers la mairie de Bukavu. Albert Matabaro, membre de l'équipe des manifestants, explique donc le but de leur action au micro de Jean Kassami.
C'était un sit-in non-stop qu'on a organisé à la frontière Ruzizi Premier pour dénoncer l'agression rwandaise dont nous sommes victimes
À un certain moment, on s'est rendu compte que nous sommes peut-être complices de tout ce que nous sommes en train de subir à l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça, du coup, on a vu la police venir tout près de nous, là où l'on était assis. La police nous a demandé de se rendre à la mairie, que notre marche n'était pas autorisée par les maires de la ville. Et voilà, nous sommes actuellement à la mairie. Nous venons d'être entendus par les maires de la ville. Nous lui avons précisé que nous sommes la société civile, nous sommes les mouvements citoyens, toutes tendances confondues. Nous sommes également les patriotes. Et nous, on a dit, nous devons dénoncer cette agression parce que actuellement, les M23 occupent plus de 130 localités au Nord Kivu. Et nous, on a dit que désormais, c'est le moment ou jamais de dire non, c'est le moment ou jamais de fermer nos frontières, c'est le moment ou jamais de dire à M. Kagame que...
Le sit-in devait durer 3 jours successifs selon les organisateurs. D'après quelques agents de services de l'ordre rencontrés à Ruzizi Ier, le prérogative de fermer les frontières avec un pays voisin relève exclusivement du chef de l'État, mais pas des individus. Pour boucler cette page sécuritaire dans la province de l'Ituri, toutes les activités sont paralysées depuis ce jeudi matin à Biakoto Centre, dans les territoires de Mambasa. La synergie des structures de la société civile a décrété 3 jours de ville morte dans la chefferie de Babila Babombi pour décrier le regain d'insécurité dans cette entité. Ces structures déplorent notamment les meurtres des civils et le banditisme armé par plusieurs groupes armés actifs dans les milieux. Martial Lokizabia Mungu.
Boutiques, magasins, marchés et écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi à Biakato Centre. La synergie des structures de la société civile de la chefferie du Babila Babombi dans les territoires de Mambasa fustige plusieurs cas d'insécurité enregistrés ce dernier jour à Biakato. Il s'agit entre autres des tueries de civils, d'extorsion de biens et des accrochages entre les FRDC et certains miliciens qui se réclament de Wazalendo. La coordination territoriale de la nouvelle société civile du Congo à Mambasa demande aux autorités de mettre fin à la terreur que subit au quotidien la population dans cette entité. Son coordonnateur, Jospin Paloukou.
Il faut que l'autorité de l'État soit établie dans la zone, que les patrouilles soient organisées de manière régulière, parce que les bandits à main armée circulent et font leur mouvement à tout moment qu'ils veulent. Alors que nous avons une police, nous avons un service de renseignement, nous avons une armée dans la zone.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre l'administrateur du territoire de Mambasa à ce sujet. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa. La commission d'intégrité et médiation électorale n'est pas restée en marge des débats sur la réforme constitutionnelle. Dans une déclaration faite hier devant les médias à Kinshasa, cette organisation a recommandé au chef de l'État d'initier des consultations avant la mise en place de la commission en charge d'examiner cette question qui fait débat. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La commission d'intégration et médiation électorale estime que le président de la République devrait au préalable initier des consultations avec les forces politiques et sociales du pays afin de mettre en place la commission chargée d'examiner l'opportunité d'une réforme constitutionnelle. La CIME justifie sa proposition par ce qu'elle qualifie de tensions politiques constatées ces derniers temps au sein de la classe politique congolaise. Le président de cette structure de la société civile, Idriss Katenga Mouloa, n'a pas cependant ignoré la contribution des scientifiques pour trouver des solutions idoines à cette question. Il regrette seulement que ce débat sur la réforme constitutionnelle ait ajouté son lot de tensions, avec d'un côté ses partisans ayant longtemps hésité entre révision et changement, et de l'autre côté ceux qui s'y opposent, soupçonnant les autorités en place de chercher à se maintenir au pouvoir. Opérationnel depuis mai 2014, la CIME a pour but d'accompagner le processus électoral à travers la prévention, la gestion et la médiation des conflits liés aux élections.
À Bounia, 48 jeunes, dont 5 filles, suivent depuis lundi une formation sur la maintenance des véhicules. C'est le contingent bangladais de la MONUSCO qui assure cette formation qui va durer 2 semaines. Des sources de la MONUSCO indiquent que l'objectif de cette activité est de renforcer les compétences de ces jeunes en mécanique pour leur autonomisation. Pour les participants, la floraison des véhicules dans la ville est une opportunité pour eux de créer des emplois pour leur survie. Ils expliquent donc au micro de nos collègues à Bounia.
Je suis étudiant pour une formation de... L'utilité chez moi, c'est d'améliorer la capacité que j'ai parce que j'ai déjà commencé à avec mon garage que j'avais appris depuis bien longtemps. J'ai des formations mécaniques, mais ici, avec eux, simplifie des tâches. Ils nous donnent encore plus d'avantages dans de compréhension du moteur qu'on a étudié dans le temps. C'est vraiment mieux. Dans un mois, tout sera mieux. Donc, pour la Monusco, nous les remercions beaucoup par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour nous, le peuple itourien. C'est un atout pour nous et j'encourage les jeunes.
Actualité internationale.
Le calme est revenu ce 9 janvier dans la capitale du Tchad, au lendemain d'une attaque au motif encore flou ayant ciblé le palais présidentiel, attaque à l'issue de laquelle 18 assaillants et 2 militaires ont été tués selon un nouveau bilan des autorités. Mercredi soir, le palais présidentiel de N'Djamena était la cible d'une étrange attaque des tirs nourris et détonations raisonnées pendant de longues minutes avant de disparaître aux alentours de 22h, 24 personnes des Tchadiens originaires de la capitale auraient tenté de pénétrer dans l'enceinte de la résidence du président de la République selon le gouvernement.
L'invité.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, appelle les acteurs médiatiques et politiques à adopter des discours responsables et unificateurs via les médias. Invité de Radio Capi, il promet des sanctions sévères à l'encontre de réfractaires à ces mesures. À travers son appel, il réaffirme son combat et celui de son institution de faire de l'espace médiatique congolais un levier de cohésion et de paix. Christian Bossembe s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Président Christian Bossembe, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient de lancer un appel au discours responsable et conciliant. Quelle analyse faites-vous de cet appel?
Je rappelle que j'agis en tant que président de l'institution, position de la plénière. Je crois qu'il était important de rappeler aux médias, mais surtout aux politiciens, c'est-à-dire aux hommes politiques de notre pays, de rappeler la responsabilité, éviter les discours de haine. Je crois que c'est très important pour nous de le faire en ce moment où nous avons l'impression d'assister à un théâtre, une manipulation de tout genre, la prolifération des discours de haine, des discours séparatistes. Et à mon avis, c'était le moment d'arrêter ça et de dire que nous pouvons construire un nouveau pays.
Les acteurs sociaux, religieux et autres passent aussi par ces messages des clivages. Pourquoi avoir plus ciblé les acteurs politiques?
Nous n'avons pas forcément oublié les autres composantes de la société, mais le message était destiné aux acteurs politiques, peut-être parce que nous ne sommes pas encore tombés sur des messages des hommes des dieux ou de façon générale. Nous avons fait appel à la conscience collective, à la responsabilité. Et donc, si nous tombons sur des messages comme ça venant des pasteurs ou de je ne sais qui d'autre, eh bien, on n'hésitera pas de rappeler cela. Parce que les Congolais devraient comprendre qu'il est important pour nous de cultiver la notion de la cohésion nationale, de protéger les acquis de la démocratie et d'éviter de monter les tribus les unes contre les autres. Et nous n'allons pas tolérer cela. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que le média devrait se refuser d'être le canal de relais de ces messages séparatistes et les politiciens devraient en principe éviter d'aller dans ce sens-là. Puisque vous savez, les guerres civiles sont les guerres les plus destructrices. Alors il ne faut pas tomber dans la stigmatisation des tribus, tomber dans la stigmatisation des ethnies. Nous sommes en train de construire une nation et quand on parle de la nation, ça veut dire la sublimation du vivre ensemble et surtout de la cohésion nationale.
Qu'adviendra-t-il aux réfracteurs à votre message ou à votre appel?
Les médias seront sanctionnés conformément à nos lois, ça c'est inévitable. Et pour les opérateurs politiques, si vous voulez, les politiciens, eux seront privés des médias comme le veut notre loi. Donc si un opérateur politique ou un politicien tombe sur le coup, en tout cas nous n'allons pas hésiter parce que nous avons la responsabilité de protéger nos communautés, de protéger notre culture et nous n'allons pas fléchir. Peu importe d'où le politicien viendra, que ce soit n'importe quel bord, nous allons sanctionner sévèrement.
À part ces messages, qu'est-ce que vous comptez faire pour garantir un espace d'échange constructif à travers les médias congolais?
Nous avons de projet, le forum sur la cohésion nationale. Nous sommes en train de penser à cela et mettre ensemble autour d'une table toutes les couches de notre société. Nous pensons que si les gouvernements nous aident à le faire, eh bien, on le réussira. C'est-à-dire que autour d'une table, on réunira tous les communicateurs, tous les partis politiques, toutes les composantes pour réfléchir. Ce sera un forum sur la paix et sur la cohésion nationale, parce que nous estimons que c'est très important. On ne le sent peut-être pas, mais nous avons des rapports de monitoring qui prouvent à suffisance que nous nous déchirons de plus en plus. Et lorsque vous suivez les radios communautaires dans les provinces, lorsque vous suivez les radios ici à Kinshasa, les réseaux sociaux, on a tendance à stigmatiser, sinon à employer des termes subtils, mais qui renvoient à la division, qui renvoient à la fracture sociale. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Toutes les tribus du Congo doivent vivre ensemble. Depuis 1960, nous avons réussi à vivre ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous diviser à cause des intérêts que je ne comprends pas.
Vous comptez l'organiser quand, ces forums?
Nous attendons que le gouvernement, bien évidemment, nous aide à réussir à mettre en place cette structure, parce que là, nous l'avons déjà fait. Le dossier se trouve au niveau du budget et nous attendons la faisabilité au courant de l'année 2025. Et si on arrive à le faire, ça serait une très bonne chose, parce que ça permettrait de réunir tout le monde, même ceux qui sont en province, les chefs coutumiers, les notables, toutes les couches de la société. Nous devons parler un même langage, une même langue. Ça sera l'unité, ça sera la paix, ça sera la concorde.
Président Christian Bossembe, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que répondait aux questions de Blaise Dongala Mayanda. Ce journal prend fin sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Polydor Basunga, coordonné par Richard Junior Kamunga, sous la supervision de Alain Hirung. Gisèle Cage était à la présentation. Je vous retrouve dans une heure pour le bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien.